Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui plongé dans son ordinateur, Thibaut Henneton répondra à la question « Quoi de neuf avec les cookies ?» Thibaut qu'on retrouvera à la fin de l'émission pour son complément d'enquête. Le son, ce sera un remix du Hacker. Quant à nos invités du jour, Amaël Guiton, Olivier Tesquet et Jérémy Zimmermann, pour y voir plus clair dans le Darknet.
Cette arme mortelle, nous l'avons achetée sur un site internet qui n'est pas référencé par les moteurs de recherche que vous connaissez tous, comme Google ou Yahoo. Le vendeur se cache dans les méandres d'un internet clandestin, le Darknet. Une zone de non-droit qui, jusqu'à aujourd'hui, échappe à tout contrôle, qu'il soit policier ou douanier. Une zone de non-droit qui garantit à tous ses utilisateurs un anonymat total. Pendant 6 mois, pour tenter d'en percer les mystères, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui se cachent dans ce monde secret. Des clients, mais aussi des trafiquants comme Joe, un dealer d'un nouveau genre.
Tout vient du Darknet en fait. C'est vraiment pas cher et c'est la qualité quoi.
Nous avons aussi voulu savoir comment les policiers luttent contre ces trafics de drogue, d'armes ou d'images pédopornographiques.
Est-ce que vous avez décidé d'installer Tor pour aller uniquement sur les sites pédopornographiques ?
Oui. Quand on va sur le Darknet, on n'a pas peur de ce qu'on fait.
Mais le Darknet n'est pas qu'un supermarché du crime. Ce réseau est aussi une arme au service de la liberté d'expression. Notre enquête nous a menés jusqu'en Afghanistan, où des journalistes utilisent cet internet parallèle pour se protéger.
If you use Tor, it's very useful if you want to bypass censorship.
Plonger dans le côté obscur du web, où le pire côtoie le meilleur.
Extrait d'un reportage d'Envoyé spécial qui a été diffusé sur France 2 le 14 novembre dernier, où l'on entend à cet été les expressions « zone de non-droit » répétées 2 fois. Voilà, on entend après et avant « monde virtuel »,« monde parallèle »,« continent », etc. Bon, toutes les métaphores sont bonnes pour qualifier donc ce qu'on appelle, ce qui est appelé le Darknet. Mais force est de constater qu'à la fin du visionnage de ce sujet, comme à la fin d'ailleurs de lecture de beaucoup de papiers, à droite et à gauche, on ne comprend pas toujours très bien ce que c'est que le Darknet. S'agit-il d'autres réseaux que ceux qu'on fréquente d'ordinaire sur Internet ? S'agit-il d'une partie du web non indexée par les moteurs de recherche ? S'agit-il d'autres manières de circuler sur les réseaux, notamment garantissant l'anonymat ? S'agit-il de tout ça en même temps ? Ce qu'on comprend simplement, c'est que le Darknet, ça fait peur. Alors, ce que nous allons faire ce soir, c'est donc essayer d'y voir plus clair là-dedans, de comprendre ce qui relève de la mythologie, ce qui relève de la réalité. Est-ce que tout cela engage sans doute comme un rapport à la technique, aux technologies, aux réseaux et aussi à une sorte de politique des réseaux. Et puis aussi comprendre pourquoi est-ce que ça émerge maintenant, toutes ces histoires. Alors nous allons faire avec deux habitués de Place de la Toile, Jérémy Zimmermann, bonsoir.
Bonsoir.
Porte-parole et cofondateur de La Quadrature du Net, donc association bien connue qui milite pour la défense d'un internet libre et ouvert. Olivier Tesquet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Télérama, où vous suivez plus particulièrement les questions numériques. Et vous êtes l'auteur d'un livre sur Wikileaks. Tout à coup, le titre m'échappe.
Comprendre Wikileaks, tout comprendre simplement. Wikileaks,
voilà. Qui était paru il y a 1 an et demi ou 2 ans.
2 ans.
Et puis, une nouvelle venue, Amaël Guiton.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous avez officié pendant plusieurs saisons, hein, à la matinale du MOUV. Ouais. Vous êtes aujourd'hui journaliste indépendante, alors vous travaillez encore un peu pour le MOUV, pour Charlie, pour Slate.fr, sur lequel vous venez de publier d'ailleurs un long papier sur le Darknet. Et puis vous êtes auteur de Hacker au cœur de la résistance numérique, qui était paru aux éditions du Diable Vauvert. Et puis vous tenez aussi un blog du nom de Technopolis, avec le joli sous-titre de Journalisme au futur extérieur. c'est assez joli.
Merci.
Alors juste pour commencer peut-être une petite généalogie de l'émergence de la notion. Pourquoi est-ce qu'on en vient maintenant à parler aussi activement, parce que là j'ai cité le reportage de Envoyé spécial, mais il y a eu des papiers à peu près partout, et pas simplement dans la presse française d'ailleurs, hein, beaucoup dans la presse aussi américaine, anglo-saxonne, de cette notion de Darknet. Quelles sont vos hypothèses les uns et les autres
J'ai pas l'impression que ce soit si nouveau que ça, en fait. Moi, j'ai l'impression que ça fait plusieurs années que ça dure, en réalité. Là, il y a eu effectivement une multiplication d'articles, de reportages, etc., qui est probablement liée à ce qui s'est passé autour de The Silk Road, hein, ce site donc de vente de drogue qui a été d'abord fermé, parce que son présumé fondateur a été arrêté par le FBI, et puis qui a rouvert il y a peu de temps. Il s'est passé, je crois, à peine un mois entre les deux événements. Il y avait eu cet été la fermeture d'un gros hébergeur caché qui était Freedom Hosting. Donc je pense que c'est beaucoup lié à ça, probablement. Mais moi, j'ai l'impression qu'on parle du Darknet, avec tous les guillemets d'ailleurs qu'il faut y mettre, depuis plus longtemps que ça. Peut-être que la différence quand même, c'est que depuis les printemps arabes, quand on en parle, on signale aussi que les réseaux d'anonymisation permettent notamment aux cyberdissidents d'agir, de se protéger, aux journalistes de protéger leurs sources, etc. Il y a souvent de la caricature, mais j'ai l'impression presque moins qu'avant. Enfin, en tout cas, à mon sens.
Olivier Tesquet.
Oui, ça, c'est vrai que ça, c'est un peu... Alors, on part quand même toujours un peu du principe que c'est d'abord une zone de non-droit dans laquelle il se passe éventuellement des choses positives. Hein. C'est rarement l'inverse.
Ouais. Ouais, c'est
on se rend compte que l'usage marginal tel qu'il est décrit dans les reportages ou dans les articles qui sont consacrés au sujet sont d'abord pour dire que c'est un lieu où on peut acheter de la drogue, des armes et un tas d'autres joyeusetés. Sinon, je le date à peu près effectivement de la même époque qu'Amael, c'est-à-dire avec tout le battage médiatique qu'il y a eu autour de The Silk Road, en fait le double battage autour de The Silk Road et autour du Bitcoin, parce que le Bitcoin qui est donc cette monnaie virtuelle décentralisée et anonyme dont on reparlera j'imagine pendant l'émission, a été l'espèce de fenêtre médiatique, de point de rencontre entre cet internet commercial qu'on connaît tous les jours, sur lequel on navigue et qui, pour le coup, lui, est peut-être de moins en moins dark, et ce darknet plus ou moins fantasmé, et donc il a fait remonter à la surface un peu de cette façon-là.
Jérémy Zimmermann.
Moi, je vais mettre les pieds dans le plat, au risque d'être un petit peu iconoclaste, mais c'est intéressant de voir qu'on a ici deux journalistes qui ont écrit sur le sujet, mais qui ne sont pas capables de nous dire d'où vient ce terme. Et moi, je me pose la question...
Alors, dites-nous.
Je me pose la question de la genèse d'un spin. Un spin, donc une tentative d'influence, qu'on parle des spin doctors. Mm-hmm. D'où ça vient, un spin? Et j'ai la très ferme...
Vous considérez que l'expression de Darknet est un spin?
J'ai la très ferme impression qu'il s'agit d'un spin.
Alors,
pour nous faire croire qu'il y aurait comme ça cette espèce de mauvais Internet, cet Internet des pédonazis terroristes, vendeurs d'armes et de drogue, qu'il va falloir plus ou moins contrôler, combattre, qui rappelle comme deux gouttes d'eau le discours qu'on avait dans les années 90 et au début des années 2000 au sujet d'Internet dans son ensemble. Vous vous souvenez, Internet, c'était les pédonazis, véritable supermarché de la drogue, etc. On prend les journaux du 20h de ces années-là et on remplace le mot Internet par Darknet. Et c'est exactement la même chose que l'on lit dans le papier d'Olivier, comme dans d'autres, quand ça dit les pédophiles, la drogue, etc. Mais il n'y a pas que ça aussi. Donc ça m'interpelle. Ça m'interpelle et surtout, je vois ça dans le cadre d'une campagne gigantesque contre l'anonymat et d'une campagne menée contre la vie privée par les entreprises US géants du net et par le gouvernement US, comme on le voit dans les documents de Snowden. Google, Facebook et la NSA sont main dans la main pour combattre la notion même de vie privée. Et donc de là que partout dans la presse on sort « Oh là là, attention, le méchant Internet, naninana », ça fait exactement le jeu de ceux qui n'aimeraient ne voir qu'un seul Internet bien propre, dans lequel tout le monde est identifié, dans lequel on sait tout sur tout le monde. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus... c'est qu'il n'y a aucune définition technique, comme vous venez de le remarquer, de ce que peut être un darknet. Et quand on y pense du point de vue du technologiste, un darknet, dans la définition qui est d'ailleurs très peu, j'ai vu aucun papier qui tentait de définir ce darknet, c'est la capacité de deux ordinateurs à parler le protocole de leur choix. Que ce soit un protocole chiffré ou anonymisé n'y change rien. C'est la capacité à deux ordinateurs à parler un protocole qui ne soit pas le web. Donc darknet, ça veut dire Internet.
Enfin, Internet
c'est
étant...
Internet moins le web public, donc 99% d'Internet. Quand je me connecte à un serveur FTP qui prédate le web avec mes potes, On est sur le darknet. Quand vous vous loguez sur un forum avec un mot de passe et qui n'est pas accessible au public, vous êtes sur le darknet. Quand vous utilisez un réseau peer-to-peer, vous êtes sur le darknet. Tout est darknet, sauf le web dominé par Google et Facebook. C'est quand même étrange, non ?
Amaël Guiton, parce que vous avez essayé, vous avez tenté de définir techniquement le darknet.
J'encourage Jérémy Zimmermann à lire mon papier, parce qu'en l'occurrence, je commence par là, par la définition la plus technique possible d'un darknet qui est effectivement un réseau privé, virtuel, anonymisé, entre, un réseau d'amis finalement. Et d'ailleurs, c'est intéressant.
Mais donc, ça, c'est tout Internet qu'un réseau d'amis, moins la partie publique.
Bah, c'est un darknet, c'est quand même des gens qui font le choix de se connecter entre eux, entre gens qui se connaissent.
Mais c'est ce qu'on faisait avant le web. C'est ce qu'on a toujours fait sur Internet quand on se connectait sur des canaux IRC, sur des FTP, avant même le web.
Moi, je trouve ça très symptomatique.
Alors,
c'est extrêmement symptomatique parce que c'est un débat extrêmement intéressant. Je trouve que la question soulevée par Jérémy, elle est importante dans la mesure où on dit toujours le darknet. On ne dit pas les darknets, parce que c'est des darknets, effectivement, comme vient de l'énoncer Jérémy. C'est un point A et un point B, éventuellement un utilisateur C, qui se mettent en commun, qui décident de discuter en dehors de ce web partagé avec tous.
Sans être connecté au reste, quand même.
Mais dans les médias, dans la façon et dans la représentation qu'on en a, on imagine le darknet comme un corps constitué tel quel. C'est-à-dire qu'il y aurait un Internet.
Un continent, c'est ce qu'on dit. Un continent comme s'il y avait vraiment une terre.
Mais c'est aussi de là d'où vient l'espèce de problème de lecture qu'il y a entre le deep web et le darknet, donc avec notamment cette espèce de métaphore de l'iceberg qu'on croise systématiquement, qui est de dire qu'il y a l'internet référencé sur Google, qui est l'internet que connaissent 99,9% des gens, et toute cette partie qu'on ignore, qui est le contenu non indexé, qui s'appelle le deep web. Et du coup, on a cette espèce de métaphore qui glisse comme ça, et on en vient à appeler le darknet toute cette zone qu'on ne verrait pas, mais qui effectivement peut juste être tout ce qui échappe à ce côté très centralisé du moteur de recherche, de l'échange public, etc. Seulement du moteur de recherche, effectivement. Mais je trouve que
Qu'on dise un darknet ou des darknets, ça change absolument rien à cette définition qui englobe.
Mais par contre, ça change quelque chose quand on dit le darknet.
Oui, c'est aller encore plus loin dans le sensationnalisme. Mais pour moi, ça n'est qu'une étape, justement, dans cette espèce de spin monumental dans lequel tous les journalistes qu'on a vus là, ces 6 derniers mois, faire des trucs de 4 pages avec des armes, avec du gras sur terrorisme, nazi, pédophile, etc. Ils sont tous engouffrés dedans sans se poser la question.
Mais alors, d'accord. Bon, mais alors d'abord, il faut distinguer des choses. Donc, par exemple, Olivier Tesquet, vous venez de dire, voilà, le darknet, enfin, alors, employons quand même le terme, puis après on va le détruire. Enfin, je sais pas. Je vais pas l'employer. Comment vous définiriez ça alors ?
L'internet.
C'est à l'internet étant comme l'ensemble de tout.
De toutes les communications entre tous les ordinateurs avec tous les protocoles de leur choix.
Alors, comment, Jérémy Zimmermann, vous définiriez cette partie de l'internet ? À laquelle je ne peux pas accéder depuis mon ordinateur lambda.
Des réseaux privés, des réseaux chiffrés et des réseaux anonymisés, les trois répondant à des logiques bien différentes. Parfois, il y a des réseaux privés et chiffrés, parfois, il y a des réseaux chiffrés et anonymisés, parfois, il y a des réseaux privés et anonymisés, mais on ne peut certainement pas mettre le tout dans le même sac. Et il faut voir protocole par protocole, il faut voir démarche par démarche, objectif par objectif, à quoi servent ces réseaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Internet, c'est l'inter-network, c'est une interconnexion de réseaux. Donc dire, mais c'est ces réseaux qui sont isolés du reste, par définition, tous les réseaux sont isolés du reste et interconnectés les uns avec les autres. Il y a un seul instrument centralisé, ici c'est les moteurs de recherche comme Google, qui vont parcourir tout le web public et faire un point d'entrée unique sur tout le web public. Donc on pourrait dire, ce que les journalistes qui se font embobiner par ce principe-là définissent comme le ou les darknets, c'est toutes les parties d'Internet que Google ne connaît pas. Et sous-entendu, c'est là où il se passe toutes les pires saloperies de la Terre. C'est là où il y a les pédos et les nazis, et c'est là où il faut envoyer les flics et l'armée.
Amaël Guiton.
Moi, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que dans la constitution d'un darknet, il y a la volonté d'échapper, et c'est intéressant d'ailleurs d'interroger ça, d'échapper à la traçabilité et au contrôle, quelles qu'en soient d'ailleurs les raisons. Et je crois que c'est très important, parce que finalement, moi, ce qui me semble ressortir de beaucoup de reportages, c'est la peur qu'il existe des zones qui échappent au regard ou aux oreilles. Ce qui est quand même assez étonnant, parce que dans la vie physique, il y a énormément de zones qui échappent au regard ou aux oreilles, quand on est chez soi dans son salon, quand on est au fin fond de la campagne, quand on est au café du coin, etc. Et ça paraît normal à tout le monde. Ça paraît normal à tout le monde d'accepter ça, quand bien même il se passerait dans ces zones d'obscurité sociale des choses socialement néfastes. Enfin, c'est parce que l'hypothèse inverse consisterait à tout surveiller tout le temps.
Bon. On accepte la vie privée dans la vie physique et on l'accepte plus
dans les réseaux. Et on l'accepte plus dans les réseaux. Or, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus cette idée que finalement le réseau doit être transparent. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire de Darknet avec ou sans S, fantasme ou réalité, c'est à un moment donné, effectivement, la séparation et l'obscurité. Parce qu'il me semble que la possibilité de la séparation et la possibilité de l'obscurité sont aussi des conditions, à mon sens, de la vie privée. Mais alors, effectivement, c'est ça aussi qui nourrit le fantasme.
Donc, le Darknet, ça pourrait être. Alors, parce que j'aimerais bien qu'on se mette d'accord sur une sorte de définition quand même. Alors, non, mais la plombe. Alors, est-ce qu'il y a une partie d'Internet qui. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça, Germaine Zimmermann, de dire que quand même, il y a une partie d'Internet dans laquelle des gens veulent ne pas être tracés et veulent vivre dans une sorte, ou évoluer dans une sorte, non, mais qui le font volontairement, pour des raisons, après qu'on pourrait analyser, qui sont plus bonnes ou moins bonnes, mais la question n'est pas là, mais qu'il y a quand même une partie du réseau qui veut vivre caché.
Moi, j'aurais envie de vous dire que ça devrait être le défaut, ça devrait être la base. Par définition, le secret de nos communications, qui est protégé dans la loi, devrait être mis en œuvre sur toutes les communications, et on devrait pouvoir, au cas par cas, choisir ce que l'on rend public. Or, Google, Facebook, Apple, Microsoft et compagnie nous ont imposé le modèle inverse, dans lequel tout devient par défaut public et il faut faire des efforts pour se cacher. Et on commence presque à s'entendre sur une définition, mais je reviens sur ce que je disais, que c'est Internet. Cette définition d'être séparé du réseau et d'avoir un truc privé, c'est ce que vous faites en entreprise quand vous vous connectez depuis chez vous via un VPN pour accéder à vos mails ou aux fichiers de l'entreprise. Ouais. Donc un réseau d'entreprise, c'est un darknet. Un réseau universitaire, c'est un darknet. Un réseau un syndicat entre plusieurs entreprises ou machin, c'est un darknet, etc. etc. Darknet, ça veut dire net.
D'accord.
Mais cette notion que l'anonymat serait quelque chose que chercheraient certains quand ils veulent commettre des crimes, et ça c'est
non,
même...
Non, on n'a pas dit quand ils veulent commettre des crimes.
Ce que je veux dire, c'est Eric Schmidt. Le patron de Google, qui dit ça. Il dit l'anonymat sur Internet, c'est pour les gens qui veulent commettre des crimes. Donc là, il y a bien une tentative d'influence à l'échelle planétaire. Parce qu'effectivement, une connexion cachée, une connexion anonyme, c'est des revenus qui échappent à Google, et c'est des informations qui échappent à la NSA.
Olivier Tesquet.
Je suis retourné le problème à l'envers. J'ai l'impression qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à s'accorder sur une définition d'Internet.
Ah.
C'est pas du Darknet.
Pourquoi, alors ?
Si, non, mais tu veux comprendre où je veux en venir. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, pour 99% des gens, Internet, c'est Facebook et Google. Point. Et donc, effectivement, tout ce qui va être hors de ces deux réseaux tentaculaires, appelons ça comme on veut, de ces deux entreprises, c'est peut-être encore la façon la plus simple de les présenter, ça va être du Darknet. Or, effectivement, le problème, c'est pas tant de savoir ce qui relève du Darknet ou ce qui n'en relève pas, c'est savoir qu'est-ce qu'on met derrière Internet. C'est-à-dire que si on prenait, faisons un peu de psychogéographie d'Internet, si Facebook et Google étaient à mi-chemin entre l'architecture haussmannienne et le panoptique foucaldien, pour être un peu grandiloquent, voilà, le Darknet, c'est l'espèce de psychogéographie de la dérive. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on va disparaître. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une espèce de rhétorique de la disparition.
Ça fait peur, bien évidemment. Amaël Guiton, allez-y.
Oui, non, je voulais revenir sur ce que disait Jérémy Zimmermann à l'instant. Le fait que l'Internet soit de plus en plus transparent, ça n'est pas que de la faute de Google, de Microsoft ou de Facebook. Le protocole de connexion au web HTTP est par définition, par principe, par défaut, transparent. Les protocoles de mail sont par défaut transparents. En fait, l'Internet est par défaut transparent, c'est-à-dire que les machines se donnent le maximum d'informations. Et en réalité, l'obscurcissement, la sécurité, les couches de chiffrement, par exemple, c'est en plus. Et c'est venu après. Et précisément, ce qui se passe aujourd'hui par rapport à toutes les questions de surveillance et d'interception massive des communications. Et ça, on l'a très bien vu dans une réunion qui a eu lieu il y a un mois à peu près à Vancouver, la réunion de l'Internet Engineering Task Force. Dit comme ça, ça fait peur.
Bon, non, mais l'IETF, on a déjà parlé plein de fois ici.
Les ingénieurs,
ceux qui font les standards.
Ouais. les ingénieurs du net qui travaillent sur les standards se sont réunis pour dire qu'est-ce qu'on fait pour rendre la surveillance de masse de plus en plus coûteuse. Et la première solution qui a été avancée, c'est le chiffrement par défaut du protocole HTTP, c'est-à-dire rendre le HTTPS standard. Bon, ça prouve bien que au départ, il y a transparence et que effectivement, c'est une démarche et c'est une démarche politique d'essayer de remettre de l'opacité dans tout ça, que ce soit par des couches de chiffrement effectivement dans les protocoles classiques ou par le développement de réseaux d'anonymisation ou de réseaux séparés. C'est à mon avis, c'est ça qu'il faut interroger, c'est parce qu'effectivement dans le contexte actuel en plus, ça devient encore plus crucial.
Jérémy Zimmermann, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui et non. Oui et non, parce que une nouveauté depuis le début des années 2000, c'est cette hypercentralisation des données autour de quelques acteurs. Et qu'avant, si par défaut, effectivement, la plupart des protocoles étaient en clair, il existait aussi des versions chiffrées ou sécurisées de toutes ces technologies, à une époque où ça consommait quand même beaucoup plus de ressources que ce qu'on pouvait se permettre d'en dépenser à l'époque. Mais à l'époque, on avait tous notre serveur avec nos mails, on savait physiquement où étaient nos mails. Donc la question de se connecter de nous à nos mails était moins importante qu'aujourd'hui où tous les mails sont stockés par défaut chez Google pour 40% de la population. Donc cette hypercentralisation a changé la donne. Cette notion fumeuse, vaporeuse du cloud où en fait on vous dit ne vous posez plus la question d'où sont vos données ou de qui contrôle vos données parce que c'est plus facile pour vous. Où en fait on se fait tondre de ces données personnelles, on se fait exproprier de ses propres données personnelles, c'est quelque chose de relativement nouveau. Et on voit maintenant avec les révélations de Snowden que c'est directement lié à des changements de pratiques dans le renseignement et donc dans les techniques d'influence politique et économique.
Olivier Tesquet ?
Mais je pense que c'est justement du fait de cette centralisation à laquelle on assiste depuis déjà quelques années qu'il faut trouver la raison de l'émergence de cette idée de Darknet.
Ouais, donc, c'est ça, mais
c'est là où finalement on arrive au point de convergence.
C'est ça, vous êtes tous d'accord avec ça.
Si le terme émerge, mais que ce soit en positif, en négatif, je sais qu'il est extrêmement connoté péjorativement ce terme, mais je pense qu'il est là et que les médias s'en saisissent, pas toujours bien.
Mais c'est bien le problème.
Parce que précisément, aujourd'hui, on est face à cette centralisation d'Internet et que là où le Darknet, il y a 10 ans, se serait appelé Internet, aujourd'hui, on l'appelle Darknet parce que la définition qu'on a d'Internet, c'est Google et Facebook.
Et donc, c'est bien le problème. Et je ne vous jette pas la pierre, Olivier Tesquet, parce que votre article n'est pas le pire de ceux qui ont publié sur le sujet. Mais quand on a des journalistes qui ne vont pas se poser ces questions-là et qui vont tous comme des moutons s'engouffrer à répéter les mêmes chose, sans chercher d'où ça vient, sans chercher à qui ça sert, et utiliser ce terme « dark net » et mettre du gras partout sur terreau, pédo, bombe, etc. On est dans de l'influence. Et les journalistes ne peuvent pas prétendre être neutres quand ils participent à cette influence. Ils pourraient dire « on vous parle de dark net, c'est des conneries, appelons ça le freedom net, appelons ça le liberté net, et appelons ça le réseau de la résistance à cette société de la surveillance globale que l'on voit apparaître aujourd'hui. » Mais qu'est-ce qui fait qu'aucun journaliste, quasiment aucun journaliste, ne réagit avec un autre son de cloche. Moi, c'est ça qui m'inquiète véritablement.
Je mettrai juste un petit bémol à ça, entre guillemets, c'est que ça se rattache quand même à une notion qui me semble assez importante et qu'on n'a pas encore évoquée jusqu'à présent, qui est la crypto-anarchie, qui n'est pas une notion d'ailleurs, qui est plutôt une idéologie, appelons ça comme qui peut être plus ou moins fumeuse. Je vois Jérémy qui commence à faire la grimace. Toujours est-il que la crypto-anarchie, j'ai retrouvé le manifeste de la crypto-anarchie qui a été écrit par Tim May en 1992 et qu'il a commencé à rédiger en 1988. Donc autant dire que c'est quand même pas hier. Ouais. Il disait « La technologie informatique est sur le point de permettre aux individus de communiquer de manière totalement anonyme. » Il ajoutait aussi quelques lignes plus loin « L'État essaiera bien sûr de ralentir ou d'arrêter le développement de cette technologie en invoquant la sécurité nationale, l'utilisation qui en est faite par les dealers et les exilés fiscaux et la désintégration sociale. »
Ah ben il est assez
C'est ce qu'on appelle être un peu visionnaire. Ouais. Voilà. Donc tout ça pour dire que quand même c'est pas surgi de nulle part, out of the blue, et qu'on est quand même dans quelque chose qui obéit à une idéologie, à des idées et à une volonté de disparition qui était déjà présente à cette époque-là, finalement.
Alors, pour le coup, est-ce que c'est anarchisme ou libertarianisme ? Mais le fait, enfin, aux États-Unis, vous, Olivier Tesquet, parler de Tim May comme ça, c'est un truc qui est très américain, ce libertarianisme qui parfois est de gauche, parfois de droite, ou de dire par défaut, on ne va pas faire confiance au gouvernement pour s'autonomiser, etc. Ça n'est pas que l'apanage de l'anarchisme. Et quand bien même.
Non, je dis juste ça parce que justement, ça c'est quand même le manifeste de la crypto-anarchie.
Bien sûr, mais quand bien même, dans les différents papiers sur le darknet, entre guillemets, on n'entend jamais parler de ça. Et oui, il y a des pédophiles et des nazis sur les darknets, mais il y en a dans la rue. Oui, ils se vendent la drogue et des armes sur le darknet, mais ils s'en vendent dans la rue. Mmh. Pourtant, on ne fait pas des papiers sur les dark rues, ces espaces gris entre les immeubles.
Non, on surveille la rue. Il y a la police dans la rue.
Oui, mais pas partout, et pas tous les coins de rue. Et on ne part pas du principe dans la presse que la rue, c'est mauvais.
Mais ceci dit, l'internet est surveillé aussi. Enfin, c'est-à-dire que quand on... Alors, c'est probablement que les technologies qui protègent la vie privée rendent le travail d'enquête plus complexe. Ceci étant, il a lieu et l'internet invisible ou caché ou séparé est aussi évidemment un lieu d'affrontement d'ordre divers. Mais la police et l'armée et les agences de renseignement y sont aussi présentes.
Vous faites une transition parfaite parce qu'on essaiera de voir ça dans quelques instants, mais tout de suite, Thibaut Henton, Thibaut qui s'est plongé cette semaine dans son ordinateur pour répondre à la question que je ne trouve plus du tout et qui est, ah oui, quoi de neuf avec les cookies?
Quoi de neuf avec les cookies? Les cookies, ces petits programmes informatiques qui entrent malgré nous dans nos ordinateurs, qui nous connaissent mieux que personne, qui nous identifient au long de notre navigation sur le web, qui enregistrent nos consommations ou nos mots de passe pour éviter d'avoir à les retaper à chaque fois. Un rapport d'une sénatrice en dénombrait 300 en moyenne dans chaque navigateur, sachant que plusieurs peuvent être installés sur une même machine. 300. Des programmes qui ont le nom de gâteau et qui nous suivent pour mieux adapter nos futures recherches, nos futurs achats ou les publicités à nous vendre. Je pense à cette scène de Matrix où Neo va voir l'oracle, ce personnage programme très ancien qui a suivi l'évolution de la matrice et qui sert de guide aux humains. Eh bien, que fait l'oracle dans sa cuisine? Elle prépare des cookies qu'elle propose ensuite aux brebis égarées venues solliciter ses services. Ça ne peut pas être une coïncidence. Les cookies, c'est une vieille histoire du web. Bon, mais alors quoi de neuf? Bien, il y a bien eu des tentatives pour encadrer leur utilisation, exiger le consentement de l'utilisateur au niveau européen depuis plusieurs années déjà, des directives européennes que les États ont bien du mal à traduire en droit national. Conséquence de cela ou pas, j'ai vu à plusieurs reprises ces derniers temps apparaître un bandeau en haut de ma page de recherche Google, le géant de l'industrie publicitaire en ligne qui représente un tiers du marché. Un avertissement du type « Nous nous servons de cookies, voilà, vous êtes prévenus ». Il faut cliquer pour en savoir plus, mais en fait, pas besoin d'aller jusque-là. Clique droit sur n'importe quelle page web, afficher des infos sur la page, s'ouvre alors une petite fenêtre qui liste notamment les cookies et données de site. Un des premiers trucs à faire quand on paramètre son navigateur pour éviter un tracking trop prolongé, en plus d'installer les extensions Adblock et Ghostery, bien sûr, c'est de sélectionner les options. Ne conserver les données locales que jusqu'à la fermeture du navigateur et bloquer les cookies tiers et les données de site. Ça évitera déjà de tourner en boucle sur soi, sur ces mêmes centres d'intérêt, ces mêmes préférences. Cela permettra peut-être des découvertes inattendues, ce pourquoi le web peut encore être estimable. Seulement tout cela ne pourrait servir à rien. À cause de types comme moi, un peu conscients mais pas très techniciens, qui se mettent à paramétrer leur navigateur comme indiqué à l'instant, incitant l'industrie de la publicité en ligne à s'adapter, c'est-à-dire à préparer l'après-cookies. Bon, c'est aussi parce que les cookies ne fonctionnent pas sur les téléphones portables qui brassent toujours plus de trafic. Les mouchards cookies sont donc remplacés par des systèmes d'empreintes, où c'est la configuration de mon navigateur qui fait office de carte d'identité. Cela veut-il dire que ma configuration est unique parmi les milliards de navigateurs installés sur les ordinateurs du monde entier? Non. Je vais sur panopticlick.eff.org pour en avoir le cœur net. C'est un outil mis en place par les militants de l'Electronic Frontier Foundation pour déterminer précisément la singularité de mon navigateur. Je clique sur « Test » et le résultat est sans appel. L'empreinte de votre navigateur semble unique parmi les 3,6 millions testés jusque-là. De fait, l'identifiant unique serait déjà en place dans le navigateur Chrome de Google et le Safari d'Apple. Raison de plus pour rester sur Firefox? Sans doute, mais si c'est pour aller sur Facebook... Je lis sur écran.fr que le réseau social est à la chasse aux souris, qu'il teste actuellement une méthode pour enregistrer jusqu'au mouvement même de la souris ou des doigts sur le pavé tactile. afin de déterminer quelles sont les zones les plus survolées sur le réseau social. Comment on dit pavé tactile dans la langue d'Apple déjà ? Trackpad.
Merci Thibaut, on vous retrouve à la fin de l'émission pour votre complément d'enquête. Le morceau qu'on écoute, là, qu'on va écouter un petit peu, s'appelle Shockwave, donc onde de choc. Morceau original du très bon musicien électro-français The Hacker, qui est ici remixé par le non moins excellent Gesaffelstein, le jeune musicien lyonnais, hein, dont le premier album Aleph est sorti il y a un mois, et qui est un peu la personne qu'on a envie d'être en ce moment. France Culture, Place de la Toile, et donc un remix de Gesaffelstein. J'aime beaucoup prononcer ce mot, Gesaffelstein. J'ai l'impression d'être au Rex. Donc le magazine des cultures numériques, où nous essayons de démonter aujourd'hui cette notion de Darknet avec Amaël Guiton, Jérémy Zimmermann et Olivier Tesquet. Alors, je crois qu'on a bien compris. Donc, selon la théorie, vous voulez immédiatement réagir
Non, allez-y.
Peut-être que je peux poser une question pendant la demi-heure qui vient. Non, mais parce que on a compris. Bon, je pense avoir assez bien compris votre élaboration, Jérémy Zimmermann. Mais du coup, quand même, se pose une question, et c'est à laquelle commençait à répondre Amaël Guiton, qui est la question quand même de ce qui s'y fait, ce qui s'y dit et ce qui s'y transporte sur ces lieux. Ok, il y a une multitude de réseaux, d'accord. Ces réseaux, c'est ce qu'on aurait appelé il y a 20 ans. L'internet, on appelle ça aujourd'hui le darknet à cause d'une évolution de l'internet comme on a évoqué un petit peu, mais enfin quand même il s'y passe des choses sur ces lieux, il s'y échange des choses, alors évidemment on parle de Silk Road comme étant un lieu de vente de la drogue, alors évidemment le problème c'est que les chiffres qu'on a sont les chiffres des enquêtes du FBI qui disent c'est échangé pour 1,2 milliard de dollars de drogue, c'est absolument impossible de le savoir,
c'est d'ailleurs probablement surestimé parce qu'en fait c'est fait à partir d'une conversion de ce qui s'est échangé en bitcoin mais qui tient pas compte forcément très bien des fluctuations.
Or, on sait sont que grandes.
Le bitcoin a beaucoup fluctué. Une des difficultés en réalité pour appréhender tout ça, c'est que, j'allais dire, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir vraiment, et pour une raison simple, c'est que un réseau d'anonymisation comme Tor, par exemple, dont on parle beaucoup, a précisément été conçu pour qu'on ne puisse pas savoir ce qu'ils font les gens. C'est ce que ces concepteurs appellent la privacy by design. C'est-à-dire que la protection de l'anonymat, la protection de la vie privée, ne repose pas sur un tiers de confiance, mais vraiment sur le logiciel lui-même, le réseau lui-même, la manière dont il fonctionne. Et ceci dit, c'est intéressant par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure sur le libertarisme.
C'est Jérémy Zimmermann et Olivier Tesquet
se disait entre Olivier Tesquet et Jérémy Zimmermann sur cette question du libertarianisme. Parce qu'effectivement, la méfiance envers l'État, la notion d'intelligence à la périphérie, c'est quelque chose qui a profondément imprégné la construction de l'Internet, d'abord, et aussi la construction des outils cryptographiques qui servent aujourd'hui à se protéger. C'était une question qui commençait à se poser d'ailleurs dès la fin des années 60. Hein. Les premiers universitaires qui voulaient faire de la cryptographie civile, c'était précisément pour cette raison. Parce qu'ils avaient anticipé qu'à un moment donné, tous on communiquerait sur le réseau.
Alors qu'il était absolument interdit d'en faire à l'époque, la cryptographie.
C'était très compliqué.
C'était militaire, la cryptographie.
Ouais, c'était le monopole de la NSA notamment. Et ceux qui ont développé la cryptographie civile se sont heurtés à des tas de problèmes, de l'interdiction de publication, à des menaces de procès d'ailleurs. Ça n'a été libéralisé qu'à la fin des années années 90. Mais c'est vrai qu'on retrouve évidemment cette notion d'intelligence à la périphérie et de méfiance envers les pouvoirs centraux dans les darknets ou les réseaux d'anonymisation. Évidemment, c'est intéressant d'ailleurs de voir ce qu'en disent les gens du projet Tor, hein, qui développent le réseau Tor. C'est l'idée que l'anonymat est à la portée de tous, mais vraiment de tous, c'est-à-dire y compris d'ailleurs des pouvoirs en place. Jacob Applebaum, par exemple, dit...
Un des développeurs du projet Tor.
Voilà, le principe de Tor, c'est que pour un soldat qui utilisera ce réseau, il y aura 10 ou 100 militants pacifistes. Je crois que c'est très intéressant
juste,
pour comprendre...
J'ai appris dans votre papier qu'à 60%, si on regarde les financements du Tor Project, hein, donc Tor, c'est un réseau qui permet de circuler anonymement sur les réseaux. C'est pas simplement... un darknet, une partie de l'Internet, comme vous diriez, Jérémy Zimmermann, et que le projet Tor est financé encore aujourd'hui à 60% par le gouvernement américain.
Mais tout à fait, parce que ça a été développé par la Navy américaine, mais pour ses propres besoins. C'est ça, en fait. Et donc, effectivement, c'est toujours financé, une large majorité, par des fonds fédéraux américains. Et du coup, on a ce paradoxe fascinant, mais qui se comprend justement avec cette histoire de privacy by design, c'est que les militaires américains, ou la police, ou le FBI, utilisent le réseau Tor, alors même que la NSA et le GCHQ essaient de casser cette protection-là. Mais Tor est utilisé vraiment par tout le monde. C'est parce qu'on dit les militants, les criminels, mais bien évidemment aussi par les forces de police. C'est vraiment l'anonymat pour tous.
Jérémy Zimmermann.
Moi déjà, il y a quelque chose qui m'interpelle parce qu'on a beaucoup entendu parler de Silk Road.
Ce site de vente.
Un véritable supermarché de la drogue où l'on peut acheter des armes, on pourrait même acheter louer les services de tueurs à gages. Donc là aussi.
C'est des légendes urbaines.
Donc là aussi, les fantasmes et toute la presse qui s'engouffre là-dedans. Sauf que 1,2 milliard de ventes de drogue, quand bien même le chiffre serait vrai, qu'est-ce que ça représente par rapport au marché mondial de la drogue ?
Oui, 320 milliards par an.
Estimé à 320 milliards par an, effectivement, le trafic de drogue mondiale.
Une goutte d'eau. Et la quantité de reportages faits sur Silk Road par rapport aux reportages faits aux endroits où se fait vraiment le trafic de drogue, est-ce à dire que les journalistes sont plus à l'aise sur un PC chez eux via Tor qu'à aller faire du reportage de terrain ? Je ne sais pas. Mais le fait est qu'on donne quand même énormément d'importance à quelque chose qui est microscopique. Qu'on puisse acheter des armes sur Silk Road ou via Tor, oh mon Dieu, aux États-Unis, il suffit d'entrer dans un supermarché pour acheter une arme. Et pourtant, en France, on n'entend pas parler du marché des armes aux États-Unis. Le quart du tiers de ce qu'on entend parler des armes imprimées en 3D ou vendues sur Silk Road. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui me fait encore une fois réfléchir sur la nature de ce spin. Maintenant, sur la nature même de l'anonymat. Déjà, l'anonymat, ça fait partie de la liberté d'expression. Des textes qui ont été des textes fondateurs des États-Unis au moment de l'indépendance étaient signés sous pseudonyme. Et font partie aujourd'hui de notre histoire. On se souvient, sous Nicolas Sarkozy, des textes signés dans le Figaro par Surcouf, des militaires qui s'exprimaient contre la politique budgétaire de Sarkozy en matière de défense, mais sous pseudonyme. On le voit très bien sur les forums où des gens vont parler de leur HIV ou de leur maladie plus ou moins rare. Ils ne le feraient pas s'ils ne pouvaient pas utiliser un pseudonyme. Donc, et d'une, l'anonymat, ça fait partie de la liberté d'expression. Et de deux, l'anonymat, c'est une des composantes du droit à la protection de la vie privée, qui est une autre, un autre droit fondamental. Secret, anonymat et autonomie sont trois composantes de la vie privée. Et maintenant, dans le discours ambiant que l'on voit monter au travers du darknet, c'est dire que l'anonymat est l'outil de la criminalité et l'outil
est aussi
de ceux.
L'outil de la criminalité.
Il est aussi, évidemment.
Et que le rôle des pouvoirs publics, c'est de lutter contre la criminalité.
Mais comme n'importe quel outil est neutre, comme un couteau peut couper un beefsteak ou peut poignarder, l'anonymat peut être utilisé pour dire des choses très bien et lancer l'alerte, ou pour aller télécharger des images pédopornographiques. Mais le discours ambiant que l'on voit, c'est pas la criminalité sur certaines parties du réseau Internet, c'est les réseaux anonymes qui servent aux criminels pour. Et là, je sens venir une guerre contre l'anonymat. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Eric Schmidt, lui, ne s'en cache pas. Et on voit maintenant, chez les pouvoirs publics, il y a eu des déclarations dans la presse de je ne sais plus quel responsable socialiste. Et on voit maintenant des tribunes ici ou là, dès qu'il y a une affaire dans la presse sur du racisme, de l'antisémitisme, du sexisme, etc. Vous avez des tribunes qui fleurissent. Le problème, ma bonne dame, sur Internet, c'est l'anonymat. Et là, je vois un mouvement politique de fond. Et j'aimerais que les journalistes mettent autant d'ardeur à parler de ça et analyser ça.
Là, vous avez complètement raison. C'est que là, encore une fois, on retrouve les vieux discours sur l'Internet.
Exactement. C'est les mêmes velléités civilisatrices qu'on a entendues.
Et qui s'étaient plus ou moins arrêtées parce que le web avait cessé d'être anonyme, justement, par la facebookisation, etc.
Et aussi parce qu'à un moment, entre le printemps arabe et nombre de bénéfices sociaux et culturels dus à Internet, il devenait de plus en plus dur de dire mettre tout Internet dans un sac pour dire c'est les pédonazis et on va le contrôler.
Olivier Tesquet, vous vouliez réagir ?
Non, mais c'est effectivement le glissement de ce discours-là. Aujourd'hui, il se porte vers le darknet, finalement, vers ces îlots libertaires, comme dirait Hakim Bey, quoi. C'est un peu ça. C'est que aujourd'hui, on voudrait civiliser le darknet un peu comme on a civilisé Internet. Oui, mais qui s'est auto-civilisé d'ailleurs un peu.
Amel Guiton.
Mais en fait, justement, je ne sais pas si c'est un spin ou je ne sais pas si c'est les journalistes qui font mal leur travail. J'aime pas trop les généralités personnellement. Mais je crois que ça correspond aussi probablement à une espèce de besoin social de sécurité maximale. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des sociétés qui tolèrent de moins en moins le risque. Et qui, parce qu'elles tolèrent de moins en moins le risque, sont capables de renoncer à toute une série de libertés fondamentales. Il n'y a qu'à voir ce que donne le débat sur la vidéosurveillance, par exemple, c'est un peu du même ordre. Ouais. Et pour moi, cette histoire de « darknet » avec des guillemets relève un peu de la même chose. Les gens sont un peu scandalisés de s'imaginer que la NSA attrape tout, mais tout ça sur des serveurs, etc. Et en même temps, ils supportent de moins en moins les zones d'obscurité sociale. Moi, ça m'interroge énormément et je pense que si aujourd'hui on est face à ces débats, c'est aussi parce que c'est une problématique sociale et c'est toujours la même chose. C'est où on met le curseur entre ce qu'on est capable d'accepter comme contrôle social et ce qu'on est capable d'accepter comme risques sociaux. Parce qu'effectivement, il faut des zones d'obscurité. Ces zones d'obscurité-là, il y a un prix à payer, évidemment.
Alors, une question bête, mais qui n'est pas aussi bête que ça, j'espère. Est-ce que c'est facile d'accéder à ces réseaux-là, à cet Internet-là ?
Oui. Techniquement, oui. Enfin,
décris-moi en trois secondes, c'est quoi le protocole technique pour ça ?
Alors, ça dépend à quoi précisément vous voulez accéder, Xavier Delaporte. Mais si vous voulez utiliser, par exemple, le réseau Tor, c'est juste un paquet à télécharger. Si vous êtes un peu précautionneux, vous allez vérifier la signature numérique du paquet pour vérifier que c'est bien le projet Tor, que c'est bien un paquet qui vient du projet Tor. Vous l'installez sur votre ordinateur et vous pouvez surfer de manière anonyme, ce qui vous permet.
Tor me permettra simplement de surfer de manière anonyme. Est-ce que Tor me permettra un accès, par exemple, à des parties plus difficiles à accéder ?
The Silk Road, par exemple, n'était pas accessible via Google, mais une fois qu'on est sur Tor, on peut se connecter à une adresse en .onion, qui est la terminologie sur Tor, pour accéder à The Silk Road ou plein d'autres choses.
Ce qu'il faut quand même rappeler, parce que je crois que c'est important, c'est qu'on ne trouve dans ces zones de l'Internet que ce qu'on est venu chercher. On n'y tombera jamais par hasard. Donc effectivement, si on veut aller sur The Silk Road, ça n'est pas très compliqué, mais il faut avoir décidé de le faire. Si on veut accéder au coffre-fort numérique du New Yorker, qui est effectivement un outil destiné aux lanceurs d'alerte, qui est sur un service caché du réseau Tor...
Donc un coffre-fort numérique, c'est donc la possibilité de laisser de manière anonyme des documents...
Des documents sensibles.
Voilà, pour un sort d'alerte. Quoi.
Voilà. Et donc, on y accédera par le même outil technique.
Et après, la navigation sur ces réseaux-là se fait avec la même aisance, la même facilité, la même vitesse que n'importe où ailleurs sur le web qu'on connaît.
C'est un peu plus long parce que justement, le principe de Tor, c'est que la connexion passe par plusieurs nœuds pour qu'on ne puisse plus, à la sortie, déterminer d'où elle vient. Donc, c'est un peu plus long, il y a un temps de latence. Et puis, il n'y a pas de moteur de recherche. Voilà, donc c'est pour ça que je disais qu'on ne trouve que ce qu'on est venu chercher.
C'est pas le lieu de l'hypertexte, finalement. Quoi. C'est pas l'Internet commercial tel qu'on connaît, c'est pas le web, non. On est à un endroit où on a décidé d'aller, effectivement. Alors que sur Internet, on va pouvoir être dans la flânerie, plus ou moins, dans la sérendipité. La sérendipité sur le Darknet n'existe pas trop.
Et est-ce qu'il y a une manière d'estimer, je sais pas, le nombre, la proportion, vous l'avez dit tout à l'heure rapidement, Jérémy Zimmermann, je crois, la proportion de ce qu'il y a entre ce web donc, qu'on connaît et puis le reste de ces réseaux. Est-ce que c'est même estimable, je ne sais pas, quantitativement ?
Je ne crois pas, ça me semble très compliqué.
Il y a des chiffres qui circulent, mais c'est très compliqué de vérifier leur...
Le nombre de gens, par exemple, évidemment, c'est très compliqué.
J'avais dit 99%, mais j'ai l'impression que c'est la vaste, vaste majorité qui n'est pas le web public. On pourrait voir, ce serait intéressant d'avoir des statistiques au niveau des fournisseurs d'accès Internet, quelle est la part du trafic qui va sur le web public par rapport à tout le reste. Et on verrait que le web public, c'est la portion congrue. Bon, maintenant, avec YouTube, qui prend une bonne partie du trafic, ça aurait un petit peu changé. Mais contenu des vidéos de YouTube hors calcul, ce serait, voilà, ce serait un petit pouillème, je pense.
Et est-ce que, si on suit votre logique, Jérémy Zimmermann, il faudrait presque que cet accès soit encore plus facile?
Écoutez, c'est simple. Excusez-moi de revenir là-dessus, c'est un sujet qui me hante en ce moment. Mais cette société de la surveillance globalisée, dont on voit se dessiner le contour à mesure que s'égrènent les révélations de Snowden, elle repose sur trois principes architecturaux majeurs. Un, la centralisation, l'hypercentralisation. C'est parce que Facebook, c'est tout de tout le monde que Facebook est Facebook, est devenu la plus grande agence de renseignement privée du monde. Deux, les systèmes fermés. C'est parce que les Mac et les PC sous Windows ont des logiciels dont vous n'avez pas accès au code source, qui peuvent insérer des fonctionnalités malveillantes, laisser des portes dérobées pour la NSA, faire des installations à distance à votre insu qui permettent d'installer en ciblé des logiciels espions, etc. Et pareil pour les plateformes type Google, Facebook, etc. Vous n'avez pas accès au code source du logiciel que vous utilisez quand vous vous connectez à tout ça. Et enfin, cette fausse impression de sécurité, du chiffrement, on vous dit, il y a un petit cadenas là, donc c'est bon, vous êtes en sécurité. Vous utilisez Skype, vous faites confiance à Microsoft, donc vous êtes en sécurité. De l'autre côté, il y a ces trois principes en miroir qui sont les services décentralisés, donc où chacun sait où sont ses données, car il sait où physiquement est située sa machine. Les logiciels libres qui permettent à tout le monde de contrôler la machine plutôt que d'être contrôlé par elle. Et le chiffrement point à point, dans lequel les individus gèrent leurs clés pour s'assurer que seulement entre individus qui gèrent leurs clés, les communications seront comprises. Et quand on regarde ces logiciels, que ce soit Tor, Freenet, GNUnet, ou tous ceux que je ne connais pas, qui servent à faire des soi-disant Darknet, ou même des serveurs FTP, ou n'importe quoi qui existait même avant le web, ces logiciels ont tous en commun d'être des logiciels décentralisés, des logiciels libres, et d'offrir le chiffrement point à point. Donc la solution, l'anti-NSA, l'anti-société de surveillance, ce serait ce qu'on appelle aujourd'hui le Darknet. Et vous voyez le paradoxe. D'un côté, il y a Google qui est blanc, le blanc de la pureté. Et de l'autre côté, il y a ce qui est dark, ce qui est sombre. Mais en réalité, la liberté se trouve du côté sombre et non pas du côté clair.
Tout de suite, le complément d'enquête de Thibault.
Attendez un instant, j'en ai pour une seconde. Il y a une question que je voudrais vous poser. Oh, c'est pas que ce soit très important.
Thibault.
Donc on n'aurait pas dû faire cette émission, en fait, si je comprends bien.
Pourquoi ?
L'intitulé Darknet, en tout cas. Il faut renoncer à cette...
Non, voyons clair dans le Darknet. En fait, le Darknet est le bright side of the world. C'est pas ce que j'ai compris.
Et le spin, alors, auquel on a participé un peu malgré nous, vous nous avez dit, Jérémy Zimmermann, qu'il servait des objectifs cachés. Est-ce qu'on peut les incarner ? Qui les incarne, ces objectifs cachés ?
Pour le coup, Eric Schmidt...
Patron de Google.
Le patron de Google qui dit que l'anonymat, c'est pour les criminels et dont le modèle économique est d'aspirer toutes les communications de la planète. Et de l'autre, le général Keith Alexander, chef de la NSA aujourd'hui, depuis 2007, qui, quand il est arrivé chef du renseignement militaire en Irak en 2003, a dit maintenant on arrête les méthodes de collecte ciblées et on prend tout. Et qui, depuis qu'il est à la NSA, a instauré ça comme doctrine, on prend tout et ça fait sens. Si on aspire les données du monde entier, nos ennemis y sont, vu que nos ennemis sont quelque part dans le monde entier.
Et au niveau européen, je sais que le Parlement européen avait adopté des amendements qui allaient relativement dans le bon sens pour la protection des données personnelles, amendements que finalement le Conseil européen, je crois, a reporté ou a évacué. Alors est-ce que vous pouvez, vous qui êtes souvent à Bruxelles, nous expliquer un peu ce qui s'est passé dans ce...
Alors waouh, c'est un gros dossier, en quelques mots. C'est donc la révision du cadre législatif sur la protection des données personnelles qui a été présentée par la commissaire Viviane Reding, qui est un texte un peu bancal, mais qui apportait quelques avancées. L'idée est de faire plier les géants américains qui vont aller se domicilier dans la localisation géographique la plus favorable, comme l'Irlande, et de faire peser sur eux de vraies obligations de protection des données. Il y a eu des allers-retours au Parlement européen, un texte pas si mal que ça, mais avec des trous inquiétants, qui est sorti de la commission Liberté publique. Mais là, il est clairement au congélateur avant la prochaine législature, avant les élections européennes. Et maintenant, c'est un bras de fer entre le Parlement et le Conseil qui s'amorce, et ça ne va pas être joli à voir, il va y avoir du sang sur les murs.
Et entre les deux, donc, il y a des lobbies de la Silicon Valley
simple,
qui s'insèrent, on peut avoir des noms...
C'est la plus grosse campagne de lobbying jamais vécue au Parlement européen, dédiée de très nombreux contacts là-bas, aussi gros que la régulation des produits financiers ou que REACH sur les produits chimiques.
Merci, merci beaucoup à tous les trois. Vos références sont sur la page de Place de la Toile, une page où vous pouvez aussi télécharger cette émission pendant un an et la réécouter pendant 1000 jours. Alors la semaine prochaine, on devait recevoir David Martinon, figurez-vous, le représentant spécial de la France pour les négociations internationales sur le numérique, pour parler donc de la diplomatie française en matière de numérique. Eh bien, je viens d'apprendre que c'est impossible, non pas de son fait, mais de celui du Quai d'Orsay, qui estime inopportun que l'on sache donc quelle est la diplomatie française en termes de numérique. Alors, outre le fait que les services du Quai d'Orsay ne prennent même pas la peine de prévenir qu'il faut que ce soit David Martinon lui-même qui le fasse, ce qui relève au mieux de l'incompétence, au pire du mépris, il est étrange que le ministère des Affaires étrangères ne considère pas nécessaire de répondre aux questions que nous nous posons en ces temps où l'internet est secoué de toutes parts. Ça me rend dingue.
C'est ça le Darknet.
C'est ça le Darknet. Qui cherche une stratégie sous le tapis.
Place de la Toile donc, Thibaut Henton, Xavier Delaporte à la technique, c'était Thibaut Germez, réalisation Vanessa Nadjar. Il est 19h sur France Culture. Tout de suite, vous retrouvez Elisabeth Tchungi sur écoute. Bonne soirée, bonne semaine.